Lire.
Come out and fight. It is a good day to die. Thank you for making me a human being. Thank you for helping me to become a warrior. Thank you for my victories and for my defeat. Thank you for my vision and the blindness in which I saw further. You make all things and direct them in their ways, O Grandfather. And now, you have decided the human beings will soon walk a road. That leads nowhere. I am going to die now. Unless death wants to fight. And I ask you for the last time to grant me my old power to make things happen.
La pluie viendra contrarier les plans du chef qui s'étendait sur la pierre, sur le sol pour mourir. Évidemment, dans Little Big Man, le film d'Arthur Penn, sorti, je crois, en 1970.
Exactement.
Bonjour Geneviève Bridel.
Bonjour Michel Durand-Vallade. Bonjour à tous.
Et bonjour à Jérémy Gindre.
Bonjour.
Bonjour. Voilà, on a mis un petit extrait sur votre conseil d'ailleurs, Jérémy Gindre, un petit extrait de ce film extraordinaire, Little Big Man, parce que, je ne me souvenais pas, ou peut-être ne le savais-je pas d'ailleurs, que Little Big Man l'histoire se situe dans le Saskatchewan.
Alors, il se situe un peu plus bas, dans le Montana et dans le Wyoming.
De l'autre côté de la frontière.
Voilà, de l'autre côté de la frontière, voilà. Comme d'habitude.
Non pas au Canada, mais aux États-Unis.
Alors que votre roman, lui, vous l'avez situé dans le Saskatchewan, donc au milieu du Canada.
Oui, c'est même plutôt l'Ouest. Si on parle d'esprit de l'Ouest, alors on peut oublier la géographie physique et dire que ça se passe dans l'Ouest.
Voilà, dans le Grand Ouest, le Far West.
Exactement.
Alors c'est vrai que ce roman qui s'intitule « Pas d'éclair sans tonnerre », Jérémy Gindre, c'est un roman que vous avez publié 5 ans après une résidence d'écriture que vous avez faite à la Wallace Stegner House à East End. C'était en 2012 dans la Saskatchewan, la province du Saskatchewan, située, comme vous l'avez dit, entre l'Alberta et le Manitoba. Et ce décor qui est celui des grandes prairies, de terre des Indiens, plein de vestiges, au fond, vous a poussé à vous porter candidat pour cette résidence, ou c'est parce que vous avez été sur place qu'ensuite le projet du livre est né?
Alors, je suis allé là-bas découvrir des paysages qui étaient racontés par Wallace Stegner, donc ce grand écrivain de l'Ouest américain et voilà de romans et de d'essais aussi, grand théoricien de l'esprit de l'Ouest américain. Et en fait, je suis allé sur place, sachant que la maison où il avait été enfant était devenue une résidence d'artistes et d'écrivains. Et en fait, c'était pour aller découvrir les paysages racontés que je suis allé là-bas. Puis après, il y a eu le mouvement inverse, qui était de moi-même re-raconter ces paysages que j'avais.
Sans déception? Sans déception entre l'image que vous en aviez, l'image littéraire que vous en aviez et,
ah, non, non,
et la réalité physique.
C'est tellement bien raconté, tellement bien décrit par Wallace Stegner que c'était déjà très présent. Mais voilà, c'était comme passer de la juste de la télévision noir-blanc à la télévision couleur. Parce que tout à coup, il y a les odeurs, le climat très important et puis le temps sur place. Mais sinon, j'avais l'impression de déjà connaître cet endroit comme si c'était voilà. Un lieu qui m'appartenait déjà.
Bon, il y a aussi les références cinématographiques. Vous disiez, d'ailleurs dans le livre, ça se retrouve, dans votre roman, on faisait allusion à Little Big Man, vous l'aviez vu, et les personnages du livre le regardent en famille. C'est quand même une empreinte forte.
Oui, alors moi j'avais été très marqué par ce western que j'avais vu enfant, et c'était une de mes premières éducations à la culture amérindienne. Et puis voilà, c'est pour ça aussi qu'il a une importance dans le livre, ce qui fait aussi office de déclencheur chez le personnage. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi toute cette partie-là de l'imaginaire qui est déjà construite par le cinéma, bien sûr, oui.
Alors l'histoire de Pas d'éclair sans tonnerre, en gros, c'est un roman d'apprentissage, comme on dit, de formation, que vous situez dans les années 90. Le héros, le personnage s'appelle Donald. Il est fils d'agriculteur céréalier. Il arpente petit à petit après le déclic auquel vous faites allusion, mais même avant, parce qu'il est curieux de toute manière. Il arpente son environnement sur les traces de vestiges d'animaux, mais aussi de la civilisation des premières nations, comme on les appelle, donc de dessins rupestres en ossements de bison, en découverte de rituels sacrés. Il va évoluer et poursuivre son exploration du temps et de l'espace et finalement entrer dans l'âge adulte après quelques orages auxquels le titre fait allusion. Votre idée de départ, c'était au fond de situer une existence brève dans le temps long de ces grandes prairies.
Oui, on peut le dire comme ça, tout à fait. C'était en fait l'idée de montrer comment quelqu'un comprend le territoire dans lequel il vit en le lisant. C'est ce que font en fait les archéologues. Voilà. Et moi, j'ai découvert un peu cette lecture du paysage sur le tard, mais voilà, cette espèce de compréhension soudaine du monde qui nous entoure en lisant les restes, les détails qui sont encore inscrits dans le paysage, c'est ce que je souhaitais décrire en fait. Et puis ça m'intéressait de le situer justement dans une région dont l'histoire est officiellement très jeune, puisque la Saskatchewan, c'est même tardif comme colonisation de l'Ouest, puisque c'est vraiment le début du 20e. Le village où ça se passe, East End, est né dans les années 1914, 1915, 16, 17. Et donc c'est vraiment très précoce, mais voilà, montrer un personnage qui découvre que les choses sont évidemment plus anciennes et plus, le passé est plus lourd que ce qu'on lui montre.
Effectivement, et puis c'est une exploration donc autant géographique que historique dans son cas à lui, puisqu'il se déplace, qui fouillera plus tard, puisqu'il va faire de l'archéologie un choix d'études universitaires. Et curieusement, on passe toujours par rapport à lui de l'individuel au collectif, c'est-à-dire c'est un ado qui cherche son identité, puis en même temps il comprend qu'il se situe dans un grand tout. Pour utiliser un gros mot ou un grand mot.
Oui, il comprend et il comprend pas. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses. Il est en quête de beaucoup de choses et en même temps, quand il trouve, il a beaucoup de peine à en fait assimiler la connaissance qui lui est révélée. C'est-à-dire que voilà, il découvre des traces de pense-t-il bison, après il croit que c'est un dinosaure et en fait c'est entre les deux, et après il croit avoir découvert un village de trappeurs alors qu'en fait tous les gens dans le coin sont déjà au courant mais que ça les intéresse pas. Voilà, il y a à chaque fois une espèce de
décalage.
Voilà, en même temps un effet de trouvaille euphorisant et une retombée après un peu plus dégrisante.
En même temps, il est dans un contexte extrêmement inerte n'est peut-être pas le mot, mais extrêmement calme, où le rythme de la civilisation n'est pas arrivé.
C'est calme, c'est très calme.
Et
c'est,
ça, vous le confirmez.
Ça sent le vécu, ça. Hein,
oui.
Le calme, c'est très calme.
Ah, c'est merveilleusement calme.
C'est-à-dire qu'on voit passer de temps en temps un tracteur et puis...
Un nuage.
Un nuage.
Moins bruyant que le tracteur. Ça veut dire que vous y êtes ennuyé aussi?
Non, non, moi j'ai adoré vraiment le séjour là-bas. Enfin, j'allais vraiment... Non, c'était vraiment très intense en fait de vivre là-bas. J'ai l'impression que le peu de temps... En fait, j'ai fait deux séjours. J'ai fait un premier séjour en 2012, comme je le disais, qui était vraiment la résidence. Et puis après, l'écriture du roman avançant,
Vous êtes allé vérifier des choses.
Et puis, il fallait remettre en route les sources documentaires et l'imagination sur place. Et donc, j'y suis retourné. Et en fait, c'est un territoire au goût. Donc j'adore ce goût-là. En fait.
Au goût,
oui, saveur. Le territoire a un goût, a une saveur. Oui.
Ah oui, celle de la terre, de la poussière. Il y a pas mal de poussière, effectivement. Ça fait partie du travail d'archéologue.
Exactement.
C'est un roman d'amitié aussi, pas d'éclair sans tonnerre. Et parfois un roman d'aventure, puisqu'on va voir Donald se livrer à ses explorations avec son cousin Andrew. Ça fait penser évidemment à Mark Twain et les aventures de Huckleberry Finn, surtout que c'est pas toujours autorisé par les parents. Vous l'avez situé dans les années 90 parce que ça avait un sens pour la reconnaissance des civilisations indiennes, ou parce que c'était votre propre adolescence, les années 90?
Alors ça correspond en effet à mes années. Disons, le personnage est censé être un peu plus âgé que moi.
Il a 15 ans.
Non, c'est-à-dire qu'il est né plus tôt que moi. Donc oui. Ça se passe, comme vous le disiez, plutôt dans les années... D'abord l'enfance, les années 80, puis l'adolescence, les années 90. Mm-hmm. Et en fait, ça correspond aussi à des moments dans l'histoire de cette région-là que je trouvais intéressant, en fait. Avec une espèce d'éclairage international avec les Jeux Olympiques de Calgary.
Oui.
Justement, cette arrivée du nouveau western qui arrive sur les écrans et qui change la façon de regarder l'Ouest pour beaucoup de gens. Et voilà, ça, en fait, c'est une espèce d'accumulation de choses qui m'ont fait que c'était plus pratique de le situer dans cette période-là.
Alors, Calgary, c'est vrai qu'on l'a découvert un peu avec les Jeux Olympiques,
Calgary,
nous aussi.
Calgary 88.
Votre héros en parle, notamment parce que son cousin y vit, comme d'un lieu trépidant.
Oui, alors Calgary, c'est moins trépidant quand on y va, mais évidemment, c'est comme toutes ces villes olympiques, tout à coup, on a l'impression que tout se passe là-bas et que c'est un endroit merveilleux. Et puis après, quand on y retourne, on voit que, en fait, c'est une construction médiatique.
Mais disons, comparé à East End, c'est déjà la grande ville.
Comparé à East End, c'est une mégapole, évidemment. Oui.
Alors, vous avez sillonné un peu le territoire, comme Donald, votre héros. Vous êtes allé dans les lieux muséographiques.
C'est tous des lieux que je connais bien, pour y être allé et pour y être retourné pour certains. Moi, j'ai vraiment... Alors, tout ce que j'écris, toutes les fictions que j'écris sont, en fait, toujours démarrées par un lieu, en fait, par l'envie de raconter un lieu. Ensuite, j'y fais évoluer des personnages, mais c'est surtout raconter un endroit.
Mmh. Et là, ce qui est frappant, c'est que il y a un côté très pratique et très garçon, je trouve, dans ce livre. Il bricole des tracteurs, il sait conduire alors qu'il n'a pas l'âge, et il va notamment faire une fugue avec son cousin, profitant de l'absence de ses parents qui sont allés au marché pour prendre le pick-up qu'il n'a pas le droit de conduire.
Mais ça, c'est pas permis. Fille, selon vous, Geneviève Bridel, c'est garçon.
C'est pas fille, peut-être que ça l'est dans les années 90, c'est pas mon enfance en tout cas, c'est vrai. Mais vous aviez des références un peu littérature garçon, comme Mark Twain ou d'autres.
Alors oui, Mark Twain, moi c'est une marque, en effet, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est une littérature que j'adore. Alors, c'est très garçon parce que les choses sont très...
masculine.
Une vraie séparation des genres en général dans le milieu rural. Mm-hmm. Et puis, alors c'est très garçon, mais c'est garçon un peu particulier, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus dans les jeux de garçons qui sont la norme là-bas, qui sont le hockey, qui sont les scouts, qui sont le rodéo, qui sont des choses comme ça. Lui, il a toujours des activités qui sont un peu...
solitaires déjà.
Qui sont à part, oui, qui sont un peu étranges. Il se met à appliquer justement des leçons d'ethnologie qu'il apprend dans des manuels retrouvés dans des brocantes. Il il applique des jeux qui sont des jeux de garçons, mais qui sont des jeux très voilà, qui ont à voir avec l'apprentissage autodidacte.
Mmh. Il explore vraiment comme vous le faites.
Oui, c'est vraiment un jeu permanent de découverte.
Alors, je faisais allusion à une fugue, une journée où, avec le cousin Andrew, Donald, le personnage principal de votre livre, décide d'aller voir un site réputé pour ses pétroglyphes indiens. Et au retour, ils sont surpris par l'orage.
L'orage était composé de plusieurs étages. Tout en bas, une bande sombre obscurcissait la plaine comme si une couverture était tirée sur le paysage. Au-dessus, le nuage montait en colonne mousseuse, puis s'étalait largement. Au sommet, un dôme stratosphérique gonflait en bouillonnant. Il avait cette forme d'enclume qui pouvait prédire qu'il évoluait en orage supercellulaire. Dans le rétroviseur, la chose avait un côté irréel, alors il se tourna pour l'observer à travers la lucarne. C'était encore plus horrible. L'arrière de la perturbation se couchait presque jusqu'au sol, tandis que le dôme de l'enclume s'élevait toujours plus haut. Sous le plateau supérieur, les mammatus bourgeonnaient. Une excroissance avait poussé à l'avant du mur orageux un panache en forme de soucoupe volante. Elle s'avançait pour descendre vers eux. Andrew éprouva un frisson sublime. Il comprit que l'expédition punitive était sur leurs traces. La poursuite avait commencé et son issue était déjà réglée. Essayer de fuir semblait ridicule. Les garçons allaient bientôt payer pour leurs ruses, leurs mensonges et toutes leurs infractions irresponsables. Cette fois, c'était grave, la sanction serait sévère. Andrew redoutait le moment où le puits allait se mettre à s'enrouler sur lui-même. Il l'avait vu dans une émission de télévision filmée et décortiquée en animation. Il savait que ce serait le signe que la dégradation cherchait le contact avec le sol, que la queue d'une tornade descendrait les siphonner. Donald accéléra et ils prirent un peu d'avance. Le moteur du Chevrolet braillait dangereusement. Andrew essaya de se calmer, mais c'était trop dur. Il haletait frénétiquement au bord de l'hyperventilation. Il avait envie de hurler que ça ne servait à rien, qu'il valait mieux s'arrêter tout de suite, courir loin du pick-up et se coucher par terre. À la place, incapable d'agir, il aggrava son état en s'enivrant du défilé de la route à travers la lucarne. Le recul des champs contré par l'avancée du nuage lui provoqua un vertige. Ensuite, il vit le puits s'ouvrir au lieu de se torsader et lâcher une étroite trombe d'eau. L'équilibre avait craqué, une colonne de pluie se déversait, désamorçant du même coup la charge orageuse.
Gem and terror, a few escape your magic arrow. I saw you reel the men for miles, each captivated crooked smile. And you know you can't heal them all. Double diamond disposition, refractions of your center prism, your magic arrow flies precision. You saw it from that vantage point, perimeter scratched on the nation's native hide. Saw those Christian clippers glide over white caps and white sails high, over white knuckles. And I was fine till I saw the pale horse ride and open up its gate across the ocean floor. You were fine till you saw the white rider take and take some more.
c'est un groupe que vous nous avez permis de découvrir, Jérémy Gendre, Timber Timber, apparemment un groupe canadien. Alors j'ai essayé de lire, parce que je me suis dit pourquoi, alors Magic Arrow, ok, une flèche magique,
oui.
Très bien. Puis j'ai essayé de lire les paroles, alors d'abord c'est une très belle poésie, absolument magnifique. Puis il y a quelques... Vous voyez, and even in the ghastly visions, your magic arrows flies precision, whistles like a boiling potion, charges like a locomotive. Et puis cette flèche, c'est en fait la seule, c'est le seul rempart des Indiens contre ces bateaux blancs qui arrivent sur la mer, chargés de blancs, à voile blanche, le cheval blanc, enfin contre ces blancs qui sont arrivés, qui arrivent sur leur terre et qui les menacent. C'est une très belle chanson.
Que vous avez découverte là-bas ou que vous connaissiez avant, Jérémy Gendre ?
Alors, je l'ai beaucoup écouté là-bas, mais je connaissais déjà ça.
Mais est-ce que cette préoccupation est en arrière-plan de votre écriture ? C'est-à-dire, est-ce que le sort de ces Premières Nations, le sort de ces Indiens, le sort qui leur sera fait à partir de la fin du 18e, 19e siècle, et aujourd'hui encore, est en arrière-plan de votre écriture et de votre pensée ?
Alors moi, c'est une histoire qui m'a vraiment passionné, mais en fait à distance, donc je peux pas parler de ça de façon totalement éclairée. C'est-à-dire que j'ai fait que lire
vous
des choses.
Vous êtes dans l'émotion.
Voilà, j'ai fait que lire des choses, me documenter, avancer le plus possible dans la connaissance de cet endroit, mais disons, je n'en ai pas une compréhension complète, et je pense que c'est un peu le cas aussi du personnage, oui. C'est-à-dire que pour lui c'est aussi quelque chose de distant, c'est-à-dire il a jamais vraiment rencontré d'Indien pour de vrai, et il en a vu, il rencontre une première fois un Indien, c'est un pompiste dans une station essence, c'est quelque chose qui est assez qui est de l'ordre de la rumeur pour lui, et qui va essayer de voilà, il va essayer de saisir, de comprendre les choses, mais avec ses moyens à lui, c'est-à-dire ça passe jamais vraiment par un contact direct. Il a quelques contacts directs avec des gens, mais c'est pas ça qui l'éclaire le plus. C'est plus en écoutant la voix des objets qu'il trouve, en essayant de réveiller ces choses enfouies qu'il essaye de comprendre ce qui s'est passé en fait.
Mmh. Retour au titre de ce livre, Pas d'éclair sans tonnerre. On a entendu Michel lire une description phénoménale de la tornade dont ces deux gamins en fuite imaginaient que ça serait le châtiment divin. Vous l'avez observé, cette tornade ? Vous en avez vu une ?
Alors j'ai pas vu de tornade à proprement parler. J'ai vu des orages extrêmement impressionnants qui ressemblaient pas du tout aux orages que je connaissais. Et ça, c'était un spectacle merveilleux.
On a découvert le mot mammatus, en tout cas en ce qui me concerne.
Ah, gros mammatus, oui. C'est gros nuages en forme de mamelle d'ailleurs, voilà. Tout simplement.
Hein. Ouais, et puis il y a les enclumes aussi. Et puis il y a ce double sens du titre que vous avez choisi, j'imagine, pas seulement en référence à la météo, mais en référence aux conséquences des actes.
Voilà, exactement. Oui. Pas l'éclair sans tonnerre, ça rappelle un peu le pas de fumée sans feu, sauf que c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est il y en a un, c'est pas d'acte sans conséquence, pas oui, de cause sans conséquence, et l'autre c'est pas de conséquence sans cause, mais
et là c'est pas de
pas de bêtise sans châtiment.
Exactement.
Non, c'est plus justement le fait que voilà, si quelque chose se passe, on pourra en écouter la trace ensuite.
Alors, cette scène qu'on a entendue de peur des deux jeunes gens est au fond un des rares moments, il y en a d'autres aussi, mais ils sont plutôt rares, où on sent la psychologie des personnages. Votre approche de l'écriture, c'est plutôt d'écrire des actions, et en cela, elle est très américaine, d'écrire des comportements, des scènes, plutôt que d'entrer dans l'état d'âme et l'introspection, non ?
Oui, elle est plutôt à distance. En fait, c'est ce qu'il se passe dans le décor qui en fait marque
qui
la
révèle.
Psychologie des gens.
Oui. Exactement. Et ce décor est, il faut quand même le dire, et on le sent à quelques allusions dans votre livre, difficile. On sent que être fermier céréalier dans ce coin perdu, c'est pas de tout repos.
Non, c'est pas tourpeau parce qu'on est dans une logique de progrès et qu'il faut exploiter le plus possible la terre et que voilà, où d'un moment ça marche plus. Donc en fait les choses sont assez précipitées, c'est-à-dire que c'est une histoire très récente et qui va se finir aussi très rapidement. Et les personnages le sentent en fait qu'ils ont beau vivre dans un espèce d'Eden comme ça du paysage, c'est un endroit très privilégié, très agréable. Et voilà, il y a quand même une espèce de poids qui pèse sur cet endroit, une inquiétude en fait de savoir si les gens vont pouvoir continuer à vivre là.
Mmh. Alors le livre, vous le découpez en trois parties. La première s'intitule Le milieu favorable, la deuxième Le problème bison et la troisième Deux rivières. Et ces trois parties correspondent à l'évolution du personnage principal. Le milieu favorable, c'est celui de l'exploration justement des vestiges. Et puis alors il y a le problème bison qui est au fond d'abord pourquoi un problème?
Alors tous les titres de parties viennent d'ouvrages souvent archéologiques. Alors le milieu favorable, c'est le milieu dans lequel certaines inventions vont être faites par les peuples. Et puis le problème bison, ça vient d'un livre que j'avais trouvé au fond d'une bibliothèque, qui s'appelait Le problème préhistorique. Et c'était très beau. Et donc je l'ai piqué pour en faire Le problème bison. Et puis c'est ça en fait. Donald, en fouillant des choses qui devraient être simples, des ossements d'animaux, va se retrouver face à plein de choix de pensée qui vont en fait remettre en cause les choses
des
assurées,
notions,
disons
oui.
toutes les premières découvertes qu'il a faites enfant avec l'espèce d'enthousiasme autodidacte vont être remises en cause en fait par l'apprentissage académique.
En perspective en tout cas, au moins. Le problème bison, peut-être que vous pouvez nous décrire la chasse au bison, nous lire un extrait.
Donald passa le reste de l'été sur un chantier archéologique, travail de terrain destiné aux étudiants de premier cycle. Le site se trouvait à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Lethbridge, dans les Porcupine Hills, et portait le nom suggestif de « Head Smashed In ». La tête fracassée en question n'était pas celle qu'on aurait cru, mais il s'agissait bien d'un ossuaire. Il contenait les restes de dizaines de milliers de bisons, précipités par les Indiens du haut d'une falaise. Au cours de 6 millénaires, les chasseurs avaient déployé leurs ruses et affiné leurs techniques pour accomplir ce formidable massacre au même endroit, cette rupture de terrain parfaitement propice au piège des troupeaux. Cette tradition s'était affaiblie avec l'invention de l'arc et des flèches avant de s'éteindre après l'arrivée du cheval. En 1938, une équipe du Musée américain d'histoire naturelle de New York avait identifié l'emplacement et, 10 ans plus tard, des archéologues de l'Université du Nouveau-Mexique avaient donné le premier coup de pioche. Ils entreprirent la fouille en règle de ce site, menacé de destruction par les mineurs qui dévastaient habituellement ce type d'endroit en les creusant au bulldozer pour récolter les eaux et les transformer en fertilisants agricoles. Considéré comme le site pionnier de l'archéologie professionnelle en Alberta, Head Smashed In avait vu passer plusieurs générations de fouilleurs. La majeure partie des découvertes avait été bouclée à la fin des années 70, et le reste du travail était depuis laissé à l'apprentissage des étudiants qui venaient s'y faire la main. Au fond d'une excavation carrée, taillée dans cet énorme charnier de 10 mètres d'épaisseur, Donald s'appliqua à passer de la terre au tamis pour récupérer des fragments d'os calcinés et avec un peu de chance des débris d'armes ou d'outils de débitage. Ses yeux scannaient les particules à la recherche de pointes de projectiles, des silex triangulaires ou mieux, légèrement ovoïdes.
the time is getting harder than ever been before. Any time is harder ever been before.
Laisser là ce bluesman originaire de l'État de Washington. On est vraiment là à l'extrême nord-ouest des États-Unis. Alors effectivement, pas très là. Beaucoup d'Indiens, hein, les Indiens Lummi, voilà. Mais on est en dessous. Enfin, on est encore dans cette culture-là, dans cette civilisation-là, mais au bord de la mer.
Et le roman de Jérémy Gindre, Pas d'éclair sans tonnerre, se situe dans la Saskatchewan, donc un peu plus au nord et à l'ouest. On entendait cette description de la fouille de ce lieu, Head Smashed In, Jérémy, et au fond, sur place, vous avez découvert qu'on en a fait un musée, et ça me permet d'aborder l'autre partie de votre activité artistique, puisque vous êtes plasticien et non seulement écrivain, vous menez de pair ces deux activités, et vous avez un regard très ironique sur la manière de montrer, d'utiliser les vestiges, les choses à voir, et d'en faire quelque chose de didactique et d'expographique, pour utiliser un grand mot.
Oui, bah c'est toujours le danger en fait de raconter des choses ou d'en faire un spectacle.
Oui.
C'est un danger qui menace évidemment aussi les musées d'archéologie, mais Head Smashed In, il est assez raisonnable dans l'interprétation des choses qu'il montre. C'est-à-dire que voilà, c'est en effet, on a une reproduction de tipi et puis des petites maquettes d'archéologues qui descendent de leur jeep creuser des trous, mais voilà, il y a rien de grave. Je pense que les archéologues font quand même bien attention à la façon dont ils racontent les choses, surtout que celui-ci se trouve tout près d'une réserve et qu'il a été conçu en accord et en discussion avec les autorités tribales locales, donc voilà.
Oui, puisque vous présentez la construction de ce musée, mais il y a quand même, avec l'aide effectivement des responsables de l'archéologie, dont l'enseignante du jeune héros. Par contre, il y a une scène où vous montrez un guide qui résume toute la chasse au bison à un public médusé à qui il pose des questions et où il répond en chœur, qui sent le vécu et qui est assez satirique.
Alors en fait, c'est drôle parce que la visite guidée ne vient pas du Canada, elle vient de Bourgogne. le roman a aussi été
un vignoble.
A aussi commencé dans une autre résidence que j'ai fait au centre archéologique de Bibracte, donc dans le Morvan, en Bourgogne, où là on a des fouilles d'une ancienne ville celte, et où j'ai suivi beaucoup de visites guidées, où j'ai beaucoup fréquenté le musée aussi, et donc je me suis intéressé à la façon dont on racontait ces découvertes. Et voilà, à Bibracte comme à Head Smashed In, évidemment, ce qui menace un peu la façon de raconter les choses, c'est le folklore. J'en parle un petit peu dans le livre, mais c'est une question qui me préoccupe en fait. À quel point est-ce qu'il faut encourager cet aspect, ce regard, cette façon de présenter les choses folklorique. Moi, c'est évidemment il y a un danger qui plane là-dessus, de réduire les choses à un spectacle et de faire en sorte que voilà, que on se souvienne des Indiens que parce qu'on achète des mocassins à la boutique du musée, ou qu'on se souvienne des Celtes que par Astérix.
Et pourtant, vous avez fait des expositions suite à votre résidence. Où était-ce avant? Je pense à une exposition qui s'appelle Foudre sur conifères.
Oui, Foudre sur conifère. Alors, c'est des choses assez différentes, mais c'était aussi dans le centre d'art d'Embrun, et c'était aussi une exposition qui parlait du territoire. Alors là, c'est le territoire des Hautes-Alpes. Mmh. Et puis, ça racontait un peu tout l'aspect spectaculaire, mais via la catastrophe naturelle.
Et en fait, vous avez aussi fait une exposition qui utilise des objets de camping. Camp catalogue.
Alors camp catalogue, ça parle pas vraiment du camping, ça parle de l'aménagement du territoire sauvage, donc plutôt le rapport à la domestication et à l'entretien du mythe sauvage. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des parcs naturels et des parcs nationaux aux États-Unis, mais aussi en Suisse et un peu partout en Europe, et à cette façon qu'on a de nouveau de rendre les choses folkloriques.
Mais j'ai du mal, en vous écoutant, à comprendre le rapport que vous faites entre écriture, cet attachement aux lieux, à leur description, à l'environnement, enfin dire la manière de les considérer, voire même de les explorer, oui, voire même de les creuser, et la fonction artistique et exposition. C'est-à-dire quelle est la relation intime que vous faites entre ces trois choses, ces trois pôles?
Alors c'est assez simple en fait, c'est toujours une façon de raconter comment est-ce qu'on comprend le territoire dans lequel on vit.
C'est vraiment tout le plus simplement du monde.
Alors,
ceci.
C'est beaucoup plus compliqué, mais je ne vais pas tout vous raconter.
Mais ça veut dire que
partout en même temps,
l'objet suscite un récit ou le récit fait vivre l'objet. Il y a un rapport justement dans votre travail. Par exemple, vous utilisez les dioramas qui reproduisent au fond des scènes de la vie réelle.
Oui, alors le diorama c'est intéressant parce que c'est justement représenter un milieu, mais d'un point de vue idéal, c'est-à-dire avec tous ces ingrédients mis dans un même espace réduit. Mm-hmm. C'est une espèce de Cénovis d'un endroit, une espèce de capsule. Et en fait, les dioramas, ils ont été vraiment construits comme ça, comme des interprétations, des succès d'années, des concentrés d'un espace donné.
Et ça vous intéresse au même titre qu'une maquette, quoi. C'est la vraie, mais ça pourrait être la définition de la fiction, la vraie vie en condensé, en forme artistique.
Oui, alors je n'irai pas jusqu'à donner une définition aussi stricte, mais c'est voilà. Vous êtes proche.
Mmh. Mais c'est le
on
défaut
tourne autour,
des médias.
En fait. On
je
tourne
je sais que Jérémy Gindre a fait une série de vidéos dont il ne voulait pas parler. Le danger d'exposer et de réduire à un travail artistique en termes médiatiques, c'est vrai qu'on essaye de mettre des catégories, des étiquettes, et des noms. Je voudrais...
Oui, allez-y. Geneviève.
M'arrêter sur un passage qui justement montre que on explore, on interprète, et puis ensuite on se dit qu'on s'est peut-être gouré. C'est à la page 216 où votre héros se dit « Les anciens n'avaient pas voulu transmettre de messages, ils s'étaient simplement débarrassés de ce qui ne leur servait plus. En cherchant à faire parler ces reliques, les suivants ne pouvaient que s'égarer dans des excès d'interprétation. La trace en elle-même n'avait rien à dire. » Et plus loin il dit « Et ils se demandent sur quoi d'autre il s'était trompé. » Alors quoi, ça redéfait tout ce qu'on croit savoir du passé ?
Alors c'est une espèce de désillusion en fait par rapport à la magie de l'archéologie qui est de dire on va comprendre ce que nous ont laissé les civilisations passées par les traces qu'elles nous ont laissées, mais en fait elles nous ont pas laissé des traces, elles ont laissé traîner des choses. Mmh. Et on va essayer de gratter et d'interpréter à partir de souvent les restes qu'on trouve dans les poubelles en fait des civilisations passées. Et puis voilà, en fait, ça n'enlève rien au charme des choses, mais à ce moment de l'histoire, Donald est dans une grande période de doute. Et en effet, on peut voir aussi les choses comme ça. Est-ce que l'archéologie, c'est pas simplement aller ramasser ce que les gens ont jeté et dont ils ne voulaient plus se servir?
On ne comprendra pas exactement pourquoi vous n'êtes pas archéologue avant d'être écrivain, mais peut-être qu'il est question d'émotion. Mais comme vous êtes très pudique, voilà, vous ne nous aurez pas fait part de l'émotion que vous procurent les lieux, voilà, les géographies et leur rapport à l'humain. Mais il suffit de vous lire, peut-être. Pas d'éclair centenaire. Oui, c'est ça.
Voilà.
Pas d'éclair centenaire est paru chez Zoé. Merci, Jérémy Jean.
Merci à vous.
À bientôt, Geneviève Bridel. On va continuer avec un petit extrait.